L'histoire est comme un clin d'œil, furtif, aux conséquences parfois inattendues. Clin d'œil à l'histoire,
une émission présentée par Raphaël
et Ben le samedi matin à 11h
sur Radio Bartas 107FM. Mussolini, portrait d'un démagogue. Et bien voilà, on y est. Impossible de faire une émission d'histoire sans parler d'un personnage qui l'aura marqué de la pire façon qui soit. Enfin, la pire, qu'on s'entende. Aujourd'hui, dans Clin d'œil à l'histoire, nous allons vous parler de Mussolini. Il a modernisé énormément de choses en Italie. Le réseau routier, créé la sécurité sociale pour les plus pauvres, créé les premiers congés payés pour les ouvriers. Cela paraît normal pour quelqu'un qui a fait ses premières armes dans les milieux socialistes. Bref, Mussolini aurait fait de bonnes choses pour l'Italie, ce qui explique sans doute qu'encore aujourd'hui, et on le voit avec l'arrivée de Meloni au pouvoir en Italie, il y a une certaine nostalgie de cette époque pour beaucoup d'Italiens.
Mussolini, c'est aussi un personnage, disons, assez différent de tout ce qu'on peut entendre ou attendre d'un personnage comme lui. Un démagogue, oui. Un dictateur, oui. Le créateur du fascisme, oui aussi. Il a usé de tout ce qui était en son pouvoir pour museler la presse, le peuple, la liberté. Il a instauré un régime politique de peur.
Devenu le guide Duce tout-puissant de l'Italie, il a instauré dans ce pays un régime autoritaire dont la spécificité fut d'imposer au corps social une révolution culturelle visant à soumettre chaque individu à l'emprise de l'État et du parti. S'il n'a pas réussi à créer l'homme nouveau dont rêvaient les dirigeants fascistes, il n'en a pas moins obtenu jusqu'au milieu des années 30 une forte adhésion populaire qui n'a résisté toutefois ni à l'alignement de l'Italie fasciste sur l'Allemagne hitlérienne, ni à l'issue catastrophique d'une aventure guerrière à laquelle il n'avait pas su préparer son pays. Divinisé par ses partisans, adulé par nombre de dirigeants politiques européens, courtisé par Hitler qui s'est longtemps proclamé son disciple, avant de faire de lui le complice impuissant de ses crimes, Mussolini a connu en 1945, en réplique aux violences commises par les fascistes, une fin dramatique et ignominieuse. Il est le premier chef d'État à instaurer une dictature en Europe. Son modèle a influencé l'Allemagne, l'URSS, l'Espagne et même la France, comme l'illustrent les fameuses émeutes du 6 février 1934, où les ligues d'extrême droite ont tenté de renverser le gouvernement comme l'avait fait Mussolini en 1922. Pourtant, ce symbole du régime dictatorial est aussi celui qui va connaître le plus long et le plus tragique déclin de tous les exemples cités auparavant. Pour mieux comprendre le délitement du fascisme mussolinien, il nous faut revenir sur l'identité même de ce chef, sur la construction de ce personnage quasi mythologique qu'est le Duce.
D'où vient Mussolini? Dans quel contexte ce personnage, pourtant issu d'un milieu social modeste, a-t-il pu instaurer l'un des pires régimes qui ait existé en Europe? Comment a-t-il conquis le pouvoir et à quel moment a-t-il rallié la cause et s'est abaissé sous la botte de l'Allemagne nazie, ce qui in fine causera sa perte? Retraçons ici son parcours. Portrait d'un démagogue, inspiré du livre de Sir Ivan Kirkpatrick, paru aux éditions Trévise en 1967. Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107FM. Raphaël, on peut dire que Mussolini est issu d'une famille, disons, atypique, hein, d'une mère et d'un père d'origine sociale très différente.
En effet, Benito Mussolini vint au monde le 29 juillet 1883 dans le village de Predappio, à l'est de Florence. Son père, Alessandro, est forgeron, puis devient cafetier un peu plus tard. Sa mère, Rosa Maltoni, est issue de la petite bourgeoisie. Il n'en reste pas moins que sa famille vit dans des conditions très modestes en Romagne, une région au nord de l'Italie. Son prénom est un hommage à Benito Juárez, le héros national et libéral du Mexique. Le père de Mussolini est un meneur syndical et révolutionnaire, fort en gueule et volontiers bagarreur, grand coureur de jupons avec un penchant pour la boisson. Il a façonné la culture politique de son fils par ses conversations et les livres qu'il lui a donnés à lire. Sa mère, fille d'un vétérinaire, institutrice dans un milieu rural encore largement analphabète, ne manque pas d'autorité. Pieuse, elle a imposé à Alessandro, anticlérical forcené, un mariage catholique et elle envoie Benito à 9 ans chez les pères salésiens de Faenza, malgré les réticences de son mari. On verra plus tard que cela n'a pas été sans conséquence sur le jeune Benito. Le couple est uni, malgré ses différences politiques et religieuses, et l'enfance de Benito est heureuse. Néanmoins, Mussolini a hérité du caractère de son père. C'est un bagarreur, rétif à la discipline et, disons-le, déjà un espèce de leader. C'est à 9 ans, comme je le disais, qu'il va être placé chez les pères salésiens. C'est à ce moment, déjà, que l'instinct révolutionnaire de Mussolini va commencer à poindre le bout de son nez. Les injustices qu'il constate développent chez lui une haine des possédants, qu'il conservera toute sa vie. Au réfectoire, il y a la table de ceux qui payent 60 lire de pension mensuelle, puis celle de ceux qui payent 45, et enfin la plus nombreuse, où il se trouve, et qui paye 30 lire. Il est traité sans bienveillance et ne peut se plier à la dure discipline du collège, aux vexations et aux punitions. La deuxième année, à la suite d'une dispute, il blesse un camarade d'un coup de canif. Mis au cachot, on lui laisse pourtant finir l'année, en le rétrogradant dans la classe inférieure. Mais on ne le réinscrit pas pour l'année suivante.
On voit donc bien là la naissance de sa conscience politique qui tend vers le socialisme. Et les années qui vont suivre vont continuer de façonner tout ça.
Oui, déjà il passe à partir de 11 ans, 7 ans dans un établissement laïque cette fois-ci. Et Mussolini est un très bon élève. Néanmoins, il est souvent d'humeur belliqueuse et il a bien du mal avec la discipline. Il se fait renvoyer deux fois de l'internat du collège, une fois pour avoir joué du canif et la deuxième pour avoir découché. Mais ses bons résultats font qu'on le laisse au collège. Petit à petit, sous l'influence de son père, il se rapproche du militantisme et fréquente les cercles socialistes. Il assiste à des réunions publiques et y prend la parole. À 17 ans, c'est le meilleur élève de sa classe et il finit ses études en juillet 1901 avec un diplôme d'instituteur. Mussolini connaît de grandes difficultés à trouver un emploi. Il finit par décrocher un poste du suppléant à Galtieri, en Émilie, mais à la fin de l'année scolaire, la commune refuse de renouveler son contrat suite au scandale provoqué par son comportement violent et par sa liaison avec une jeune mère de famille dont le mari accomplissait ses obligations militaires.
Charmant, en effet. En parlant d'obligations militaires, à l'âge qu'il a, il doit peut-être s'en acquitter lui aussi.
Normalement, oui. Mais en juillet 1902, Benito Mussolini s'exile en Suisse pour éviter le service militaire. Il vit d'un travail de manœuvre sur les chantiers tout en militant activement dans les milieux syndicaux et socialistes parmi les travailleurs italiens immigrés. À Genève, il rencontre les réfugiés bolcheviques et fait connaissance avec les thèses de Proudhon, de Sorel et de Marx. Il apprend aussi l'allemand et le français. En 1904, expulsé à vie de Suisse pour avoir fomenté une grève, il revint en Italie et se résout à accomplir son service militaire, mais ne tarde pas à renouer avec sa vocation d'agitateur. À son retour en Romagne, Benito Mussolini s'est forgé une renommée qui aide à sa rapide ascension au sein du Parti Socialiste Italien, dont il est membre depuis ses 17 ans. En quelques années, après s'être acquitté de ses 18 mois d'obligation militaire, soi-disant un hommage à sa mère récemment décédée, il s'impose comme le numéro 2 du parti et devient surtout le charismatique leader de sa faction la plus radicale. En 1912, devenu directeur d'Avanti, le quotidien officiel du parti, et réussit, avec son style inimitable, à multiplier les ventes par 5, le faisant passer de 20 000 à 100 000 exemplaires. Puis vient la Première Guerre mondiale, c'est le grand basculement.
Nous sommes donc en 1914, et normalement, si c'est comme en France, le Parti Socialiste Italien est censé être pacifiste, je suppose qu'il en est de même en Italie.
Oui, mais alors que le Parti Socialiste Pacifiste opte pour la non-intervention, Mussolini se déclare au contraire interventionniste et favorable à l'alliance avec la France et la Grande-Bretagne. Il voit dans ce conflit l'occasion de forger non pas un parti de masse, mais un groupe de militants endurcis, comme le désirait l'un de ses maîtres à penser, Auguste Blanqui, révolutionnaire français socialiste à la fin du XIXe siècle.
La participation de l'Italie au conflit, qui intervient le 24 mai 1915, est un tournant décisif de l'histoire nationale. Un choix dicté par la raison d'État que Mussolini détournera des années plus tard pour fabriquer un mythe révolutionnaire dont il se présente comme l'instigateur.
C'est à ce moment précis que commence l'histoire de l'Italie, la véritable histoire de l'Italie. Car si avant cela on pouvait penser que l'histoire de l'Italie était le résultat compliqué de manœuvres diplomatiques, d'intrigues gouvernementales, de la volonté d'une minorité, c'est seulement avec l'année 1915, avec le nez radieux de 1915, que le peuple italien fait irruption sur la scène politique, chasse les marchands du temple et devient l'auteur de son destin. Dans le discours qu'on vient d'écouter et qui est nettement postérieur à la Première Guerre mondiale, Mussolini met bien en avant la façon dans la guerre à participer au façonnement de l'Italie fasciste. Dans le discours que l'on vient d'écouter et qui est nettement postérieur à la Première Guerre mondiale, Mussolini met bien en avant la façon dont la guerre a participé au façonnement de l'Italie fasciste. Et bien entendu, il s'attribue ici tout le mérite de la participation de l'Italie à cette guerre. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il advient de lui après sa prise de position militariste alors qu'il est en 1914 encore membre du parti socialiste italien pacifiste, lui ?
Il est tout simplement chassé du PSI et de Avanti pour ses positions militaristes. Il crée alors son propre quotidien, Il Popolo d'Italia, financé par des industriels italiens trop heureux de diviser ainsi la gauche. C'est le coup d'envoi de la véritable dérive nationaliste qui, par glissements successifs, le conduit au fascisme. De retour du front des Alpes à l'automne 1917, où il a été blessé par l'explosion d'un mortier lors d'un exercice, Mussolini promet aux anciens combattants le droit de gouverner l'Italie. Il participe un an plus tard au défilé de la victoire à Milan, entouré d'une garde prétorienne constituée d'arditi del popolo, des soldats du peuple. Ce corps d'élite de l'armée italienne, dont l'uniforme est la chemise noire. Débutent ensuite les exactions contre les militants socialistes, devenus, selon ses mots, des ennemis mortels.
La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane e dolente ognun si partì sotto l'acqua che cadeva al rovescio, grandinavano le palle nemiche su quei monti, colline, gran valli, si moriva dicendo così: o Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza, dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. O vigliacchi che voi ve ne state con le mogli sui letti di lana, schernitori di noi carne umana, questa guerra ci insegna a punir. Voi chiamate il campo d'onore questa terra di là dei confini, qui si muore gridando assassini. Maledetti sarete un dì, cara moglie, che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza, dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per tutti non fu.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. Et nous parlons donc aujourd'hui dans Clin d'œil à l'histoire de Mussolini. C'est à partir de l'automne 17, à son retour de la guerre en fait, que ses militants commencent à l'appeler le Duce, c'est-à-dire le guide. Alors, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la situation interne en Italie est précaire. Le traité de Versailles n'a pas donné les bénéfices escomptés à l'État italien. L'Italie obtient le Sud-Tyrol ainsi qu'une partie de l'Istrie sans fin et l'Albanie promise et confirmée dans son indépendance. Les caisses de l'État sont presque vides, la lire a perdu une grande partie de sa valeur pendant le conflit et le coût de la vie a augmenté de 450%. Les matières premières manquent et l'industrie ne réussit pas à transformer la production de guerre en production de paix pour absorber l'abondante main-d'œuvre qui a augmenté en raison du retour des soldats du front. Dans une telle situation, aucune classe sociale n'est satisfaite et une profonde peur d'une possible révolution communiste s'insinue dans les classes bourgeoises, surtout après ce qu'il vient de se passer dans la Russie tsariste. Raphaël, là, le tapis rouge est déballé pour l'ascension au pouvoir du parti fasciste et de Mussolini.
Oui, mais parlons d'abord de la naissance du parti fasciste. Mussolini et son journal Il Popolo d'Italia appellent à une réunion le 19 mars 1919 qui regroupe une soixantaine de personnes à Milan. Venus de milieux variés, dont on a des futuristes, des nationalistes, des révolutionnaires, la réunion accouche de la création du faisceau milanais de combat. Deux jours plus tard, le mouvement prend une ampleur nationale. Les faisceaux italiens de combat sont créés à l'issue de cette réunion et adoptent les symboles qui jusqu'alors permettent de distinguer les arditi, la chemise noire et la tête de mort. Le faisceau, quant à lui, est un objet ressemblant à une verge et une hache symbolisant le pouvoir coercitif de certains magistrats de la Rome antique. C'est ce faisceau qui rappelle à la fois la grandeur de l'Italie d'antan et le pouvoir militariste voulu par Mussolini qui donne son nom au fascisme. Le nouveau mouvement exprime la volonté de transformer, s'il le faut, même par des méthodes révolutionnaires, la vie italienne. S'autodéfinissant, parti de l'ordre, réussissant ainsi à gagner la confiance des milieux les plus riches et conservateurs qui sont opposés à toute manifestation et aux revendications syndicales et des socialistes. Néanmoins, le premier fascisme réussit à allier un aspect contre-révolutionnaire et une mystique révolutionnaire de gauche, anti-marxiste, liée à l'origine politique de Mussolini et de ses premiers partisans. En quelques mois, les squadristi fascistes se répandent dans toute l'Italie et donnent au mouvement une force paramilitaire. Pendant deux ans, l'Italie est parcourue du nord au sud par les violences des mouvements politiques révolutionnaires opposant les fascistes aux mouvements ouvriers et socialistes, sous le regard d'un État incapable de réagir, mais soutenant de plus en plus les squadristes. Partout enfin, les fascistes vont trouver l'appui des autorités locales, de l'armée, de la police et de la gendarmerie. L'action fasciste se développe rapidement et dans la violence, la composante militaire largement prévalente dans les squadres leur confère une nette supériorité lors des affrontements avec des socialistes.
Nous sommes donc bel et bien dans une guerre civile, un climat de terreur règne. Néanmoins, des élections ont lieu en mai 21 et Mussolini entre au Parlement italien.
Oui, les fascistes qui ont rejoint la coalition gouvernementale obtiennent 35 sièges sur les 275 de cette coalition. Mussolini prend place à l'extrême droite de l'hémicycle. Le 12 novembre 1921, le Parti National Fasciste, le PNF, est fondé et adopte le fameux faisceau romain dans son emblème. Le mouvement devient alors un parti et il accepte certains accords constitutionnels avec les forces modérées. Cependant, après les affrontements de Ravenne en septembre 1921, où 3000 fascistes avaient frappé tous ceux qui ne se découvraient pas devant les symboles fascistes lors de la célébration des 600 ans de la mort de Dante, les syndicats proclament une grève générale pour le 1er août 1922. Les fascistes, sur ordre de Mussolini, brisent la grève une nouvelle fois de manière très violente. Le mouvement fasciste gagne encore en popularité dans l'opinion publique, car il est perçu comme le seul qui peut remettre de l'ordre dans le pays. Hormis à Parme, les mouvements antifascistes, anarchistes, communistes et socialistes, n'ont pu sortir vainqueurs des affrontements avec les chemises noires. Les fascistes n'ont eu que peu de pertes et le parti en sort très renforcé. La montée en puissance de Mussolini étant due principalement aux violences, les chefs des Arditi obtiennent les postes les plus importants du parti. En août 1922, les habitants de Parme érigent des barricades dans le quartier populaire de l'Oltre Torrente. À la différence des autres tentatives de résistance antifasciste, celle-ci est unifiée, disciplinée et bien organisée par les Arditi del Popolo, commandés par Guido Piccelli et Antonio Cieli. Ils résistent aux squadristes fascistes d'Italo Balbo, 35 fascistes morts contre 5 opposants seulement. Mais après cette défaite, Mussolini craint que de tels événements ne se reproduisent et mûrit son projet de marche sur Rome.
« La marche sur Rome de 1922 est, on le sait, le point d'orgue du fascisme italien qui fait définitivement plier la monarchie italienne. Cet ultime coup de force offre le poste de premier ministre du gouvernement au Duce, qui entraîne cette jeune Italie dans une dictature fasciste qui a duré plus de 20 ans. Dans le prochain numéro de Clin d'œil à l'histoire, nous pourrons voir comment Mussolini se saisit du pouvoir et l'exerce en suivant toujours son idéal fasciste, dont il va encore affiner progressivement la ligne politique durant son règne. La façon dont il parvint au sommet de l'État italien est déjà un modèle du genre en Europe.
Partout, les nationalismes s'y sont affermis. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans la résolution avec le traité de Versailles, portait en de nombreux points les germes de la seconde, comme l'avait prédit avec raison Paul Deschanel à Georges Clemenceau. Ce fut vrai pour l'Italie qui vécut comme injustice la cession de Fiume à la Yougoslavie. Ce fut encore plus le cas de l'Allemagne qui sombra au terme des années 1920 dans le nazisme, dont le parti national-socialiste s'inspira de l'ascension de Mussolini à de nombreux égards pour accéder au pouvoir.
C'était Clin d'œil à l'histoire, Mussolini, portrait d'un démagogue, première partie, préparé et présenté par Raphaël
et Ben
sur Radio Bartas, 107 FM.